je vais vous conter Fleurette sur la genèse, les origines et les dessous de la réédition de Shigoroi. Il faut savoir que le scénario s'inspire du roman Sururugajo Goseijei, le tournoi du château de Suruga, ce sera plus simple, de Norio Nanjo, qui n'est rien d'autre qu'un écrivain historique spécialiste des samouraïs. Déjà, je devine que peu de personnes se sont interrogées du fait que la réédition n'a pas été annoncée chez Panini, alors que c'est clairement leur année en ce qui concerne les rééditions. Et si on ne compte pas 20th Century Boys, il y a dans le même format dit Deluxe, Eden, Banana Fish, sans oublier Sido dans une version originale de poche. Il a également été annoncé la réédition de Lone Wolf and Cub. Alors, pourquoi pas Shigoroi ? La première chose que se dit un mec lambda comme moi, c'est qu'ils ont perdu les droits et que Meian les a rachetés. Point. Mais j'ai appris récemment que c'est bien plus complexe, mais surtout grave plus intéressant qu'il n'y paraît. Je tiens toutes ces infos de sources plus sûres que sûres, et certaines sont assez croustillantes lorsqu'on s'intéresse de près ou de loin au monde de l'édition des mangas. Tout commence lorsque mon interlocuteur, donc un passionné, a découvert l'anime de Shigoroi lors de sa diffusion au Japon. Et il est devenu fan de cette licence car il a été subjugué par le côté David Lynch que l'on retrouve dans la mise en scène et parce qu'il aime tout ce qui touche aux samouraïs. Peut-être que certains d'entre vous ont d'ailleurs eu l'occasion de découvrir cet anime avec le coffret proposé par Black Box, dont il en est le concepteur, en s'inspirant des deux collectors qui existaient déjà au Japon. Il s'est aussi chargé des sous-titres et doublages, et si vous aimez les histoires de samouraïs un peu gore avec une ambiance particulière, cet anime est fait pour vous. Néanmoins, de ce que j'ai compris, c'est le genre d'anime ultra frustrant car le début de l'histoire vous montre un duel dont l'issue est incertain pour revenir à une narration antérieure. Seulement, la fin de l'anime arrive sans que ce duel se représente car l'anime se finit en 12 épisodes. Pour vous donner un ordre d'idée, elle se finit au 4e tome de la nouvelle édition. Donc, pour rappel, le manga est d'abord sorti chez Panini et le récit continue au-delà de l'anime. À l'époque, Panini devait déjà éprouver des difficultés avec ce titre car il a fallu que les lecteurs français attendent que sortent les deux derniers tomes et ce en format triple pour aller au bout de l'aventure. Alors, vous le devinez, se procurer l'intégrale de la série devait être assez pénible. Et c'est là que ça devient super intéressant, du moins pour moi. Alors que Meian a entamé les travaux sur Kingdom, notre ami a proposé que soient éditées les œuvres de Takayuki Yamaguchi, dont Shigoroi et les 7 ninjas des fous. Alors, ils avaient d'ailleurs comme projet de sortir d'abord Shigoroi sous forme de box. Voilà, un peu comme ce qu'ils ont proposé avec Kingdom et les titres coréens comme The Breaker, Eureka, Swordman et Ares. Voilà, en comptant les 15 tomes de la version originale, ils comptaient sortir 2 box, dont une de 8 tomes et une autre de 7 tomes, avec pourquoi pas un mini artbook pour combler la différence de tomes entre les deux box. Seulement, une fois que les ayants droit japonais leur ont donné un avis favorable, cela a été la désillusion. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont reçu était du matériel manquant de moitié et du matériel de la version numérique, donc absolument pas de quoi faire une bonne édition. Alors, je vous explique. Pour travailler sur un matériel numérique, il ne faut pas que cela soit entièrement aplati. C'est du jargon que j'apprends avec vous, mais qui veut dire ce que ça veut dire. Je traduis ça par une impression définitive, ce qui fait qu'apparemment, ils seraient obligés d'écraser. Alors, je le traduis par mettre une couche par-dessus, comme faire une cover pour un tatouage, par exemple. Et là, on peut comprendre la déprime du gars et de son équipe lorsqu'il constate ça. Après la déception de cette découverte, il s'est mis en relation avec Panini France, qui l'ont redirigé vers le big boss de Panini en Italie. Et là, il hallucine. Quand il apprend de la bouche du boss de Panini qu'ils avaient tout perdu, à la fois leur travail et leurs sources. Alors moi, quand j'entends ça, je me dis, mais c'est un truc de fou. Mais attendez, c'est pas ça le pire. La licence n'a pas été vendue aux États-Unis, donc il ne servait à rien de contacter des éditeurs américains. Il apprend tout de même que la licence a été vendue à un éditeur espagnol, mais ce que eux ont fait, c'est d'éditer Shigoroi avec le matériel manquant ou aplati. Et on peut le voir sur les couvertures, je vais vous montrer ça, sur les couvertures qui étaient numérisées. Là où il y avait les logos en japonais, les mentions japonaises, comme les numéros, tomes et tout ça, ils ont tout écrasé pour les remplacer par des mentions encore plus grosses. Et là, il se dit c'est pas possible, sans parler du fait que le rendu donne l'impression d'être dégueulasse. Aujourd'hui, il se dit qu'il ne peut pas faire ça car il n'aura pas de bord perdu. Alors, des bords perdus, mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore celui-là, vous vous dites? C'est simple, c'est une zone où on retrouve les traits de coupe, ce qui permet de faire des découpes nettes et qui garantit que l'impression se fasse bien en bord de coupe. Vous voyez comment nous, collectionneurs, sommes déjà tatillons lorsqu'un détail cloche sur le dos de nos couvertures. Voilà, ça a pour objectif de faire une belle édition, de belles couvertures. Des bords perdus sont une nécessité pour ne pas dire une obligation. Ouais, je fais le mec qui fait genre de savoir de quoi il parle. Enfin voilà, le but ce n'est pas de sortir un truc moins bien que Panini, mais vraiment d'offrir une édition à la hauteur de la qualité du manga. Je vous le dis, au moment où j'écoute ma source me parler de tout ça, je suis en train de cuisiner. Et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir un de ces tomes entre mes mains. La vérité, j'aime trop connaître les tenants et aboutissants d'une œuvre, et en ce qui concerne le parcours de la réédition de Shigori, j'étais loin de me douter que c'était aussi compliqué. Après, nous sommes peut-être qu'une minorité, mais ce genre de petite révélation, c'est tout à fait le genre de truc dont nous sommes friands et qui donne toujours plus de valeur à un produit. Alors moi, j'étais déjà hypé par la licence avant tout ça, et je le suis d'autant plus aujourd'hui. Donc, on comprend mieux le retard qu'a pris la licence à être édité et pourquoi Les 7 Ninjas des Fous est sorti bien avant, car lui disposait d'un matériel qui était convenable. Vous pensez bien que concernant Shigori, ça devenait un véritable casse-tête. D'abord, il a fallu faire un constat du matériel dont il disposait, dont une petite partie de page couleur, et tout était aplati de toute façon, donc cela a nécessité de clean. Voilà, ceux qui sont familiers de la lecture en scan comprennent très bien le terme. Quoique ce n'est pas très compliqué, hein, il suffit de traduire. Donc il a fallu entièrement nettoyer. Mais pas qu'un peu, on parle de super nettoyage. C'était carrément de la restitution. Alors moi, quand j'entends parler de restitution, ça me fait tout de suite penser aux grandes toiles de grands maîtres dans les musées. Mais en soi, c'est quelque chose d'assez courant. Pour vous donner un exemple, vous prenez la couverture flottante de la réimpression 2021 de l'intégrale de Spirale et vous la comparez avec la couverture dure, celle qui est dessous la flottante, qui représente celle de la première édition de l'intégrale du même nom. Voilà, je vous laisse comparer, on peut voir les retouches. Bon, ce n'est pas de la restitution à proprement parler, mais juste pour vous dire que c'est monnaie courante déjà à travers le travail autour des onomatopées, de manière générale. Mais c'est un sacré travail. Donc, ils ont fait redessiner des parties où il y a des mentions, ce qu'ils ont d'ailleurs fait aussi avec Escale à Yokohama, mais là, l'éditeur a été plutôt sympa, il était même demandeur, car il les a prévenus avant. Et bon, vu de l'expérience qu'ils ont acquis avec Shigori, ça ne leur faisait plus peur. Et ce fut assez notable parce que, comme pour Shigori, le travail de restitution des couvertures japonaises avec de gros logos aplatis ont été redessinés, et ce, à la demande de l'éditeur japonais. C'est pour ça que pour la réédition de Shigori, on a des illustrations de couverture qui sont inédites, car certaines d'origine étaient inutilisables. C'est en piochant avec le matériel qu'ils avaient à leur disposition, quitte à reprendre des illustrations couleurs présentes dans les tomes japonais, qu'ils ont pu nous proposer un produit qui reste, il faut le reconnaître, classe et cohérent par rapport au contenu. Mais en réunissant tout ce qu'ils avaient, ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas faire plus de 10 tomes, s'ils voulaient que ça reste qualitativement acceptable, voire honorable. Après avoir vu ça avec les ayants droit, alors je précise pour ceux qui ne sont pas sûrs de comprendre, les ayants droit ce sont généralement la maison d'édition, donc Akita Shonen dans ce cas précis, et parfois l'auteur aussi, mais c'est déjà plus rare. Donc les ayants droit ont donné leur accord pour publier Shigori en 10 tomes, c'est-à-dire en 300 pages à la place des 200, donc un tome et demi, pour un prix de moins de 10€. Et ils n'ont pas souhaité donner de mention comme pour The Breaker, par exemple, qui est désigné comme une ultimate édition. Alors, vous connaissez aujourd'hui à juste titre ou pas, nous avons des mentions dites de luxe, voire perfect, d'ultime ou de prestige. Et si Shigori n'a pas de mention malgré son format, c'est parce qu'ils partent sur un matériel qui n'est pas en haute résolution pour les premiers volumes, avec une résolution de 600 dpi au lieu de 1200 dpi. Alors, qu'est-ce que c'est que du DPI? C'est tout simplement la mesure concernant la résolution de l'imprimante. Par contre, ils ont mis le paquet niveau lettrage, traduction et adaptation parce qu'elle a été refaite dans son intégralité. on revient sur le gros travail de nettoyage et d'intégration d'onomatopées. Ils ont essayé avec toute l'équipe de restituer un maximum de planches couleurs pour les couvertures, mais aussi pour les pages en début de tome. Ils ont refait le logo et ils ont eu l'ambition de partir sur un format A5, ce qui donne cette dimension grand format. Puis, il y a eu la recherche du papier. Alors, ils ont repoussé le produit durant des mois et des mois, car le rendu sur papier n'était pas convaincant. Puis, ils ont opté pour du Munken. C'est quoi ça? C'est du papier optimisé pour l'impression de haute qualité, du moins c'est comme ça qu'il est dépeint sur internet. Après, il y a plusieurs formes, hein, et c'est le même papier qui a été choisi pour The Breaker Ultimate. Les autres éditions Meian, Hot Manga et Boys Love, ils utilisent du luxe. Alors je ne sais pas où elle se situe par rapport à Munken, mais étant donné que ce dernier est de qualité plus clair et plus lisse, on peut le considérer quasiment comme du premium. Voilà pour toutes les caractéristiques du produit final. Si vous l'avez déjà dans les mains, je pense que vous pouvez prendre pleinement conscience du travail fourni de cette édition. De plus, pour ceux qui ont l'occasion de mater l'animé, c'est à partir du tome 5 que le récit devient inédit et c'est dans ce tome que la résolution repassera à 1200 dpi. Perso, j'ai hâte de voir la différence, si minime soit-elle. Alors, concrètement, si vous avez déjà acheté les premiers tomes et que vous avez réellement apprécié le travail d'édition, surtout d'un point de vue qualité-prix, dites-vous que l'impression gagnera en qualité, en finesse, avec plus de détails sur les planches en monochrome par exemple. Et si j'ai bien compris, donc monochrome, une seule couleur, et si j'ai bien compris, dans ce tome 5, en plus d'être une tuerie, on a des réponses qui font référence à la scène d'ouverture et de pourquoi Shinsuke perd son bras par exemple. Alors, pour rappel, tout a commencé parce que le récit, le thème et la mise en scène particulière de l'animé ont donné envie à un homme de découvrir ce manga. Trop frustré de ne pas connaître la fin, il s'est procuré les tomes de chez Panini. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts, le titre n'est plus accessible pour le grand public, une aura entourait cette œuvre de par son contenu très cru, pour ne pas dire parfois gore, et paraît-il parce que très fidèle au temps des samouraïs. Mais il bénéficie aussi de cette aura qu'ont les séries qui n'ont hélas pas eu assez de succès à une époque, et avec l'arrivée d'un nouveau public, il devient une collection convoitée aussi par sa rareté. Alors, vous avez donc suivi toutes les démarches pour remettre sur le devant de la scène cette licence, d'abord à travers son animé, puis sa réédition. On ne peut pas dire que c'était un long fleuve tranquille, mais c'est aussi ce qui rend l'histoire captivante. Alors, il y a des personnes de l'entourage de notre source qui lui ont dit qu'il avait de la chance d'avoir pu acquérir ce titre vu que Panini a enclenché une source de réédition avec Banana Fish, Eden, Sido et prochainement Lone Wolf and Cub. Mais d'après les éléments qui ressortent, Panini n'en avait aucune envie. Et même s'il l'avait voulu, il y avait très peu de chances, voire aucune, qu'il se soit engagé dans cette voie. Pour la simple raison qu'il repartait de zéro. Puisqu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, on parle du matériel, des données, des sources, et qu'ils repartaient même de moins que zéro, puisque eux, ils ont travaillé avec le matériel d'origine qu'ils ont reçu et qui à l'époque lui était intégral et complètement adapté à l'impression. Après, je ne sais pas si vous vous rendez compte seulement l'énormité de la situation, comment une grande maison d'édition comme Panini a pu perdre les données sur une telle série, dont les sources japonaises et tout le travail d'édition qui a été fait. C'est un truc de dingue. Puis même les Japonais, comment ils ont pu perdre les données eux aussi? En fait, j'arrive même pas à le concevoir. Bref, il est probable que lorsque Meian aura sorti les 10 tomes, et à partir du moment où il y a un éditeur dans le monde qui contacte Akita Shonen pour éditer Shigeru, bah il est fort possible que ces derniers reviennent vers Meian pour leur demander leur matériel. Ce qu'ils feront d'ailleurs avec plaisir. Là, depuis tout à l'heure, je vous retranscris mot à mot ce qui m'a été dit par ma source. Ce sera même une grosse fierté, voire un honneur pour notre ami que cela sorte aux États-Unis dans une version digne, d'autant plus qu'apparemment il y a une grosse communauté de fans anglo-saxons qui ne comprennent pas pourquoi cette licence n'arrive pas dans leur contrée. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été un vrai plaisir de vous rapporter les dessous inédits qui m'ont été confiés d'une œuvre qui attend encore de rencontrer son public, qui a une histoire et certainement un avenir grâce au travail qui a été fourni en amont.